Guylain Lafond, vous êtes théologien, vous êtes moine et vous êtes aussi auteur de nombreux livres, parmi lesquels un livre sur l'Eucharistie. Un livre dans lequel vous faites le constat que nos journées sont rythmées par la nourriture, le travail, la sexualité. Comment vivre l'Eucharistie à partir de ces grands symboles ?
Je crois que nous tournons tous autour de trois pôles qui sont le sexe, la mort et la nourriture. Et ça m'avait frappé, par exemple, pendant un temps, j'avais regardé un certain nombre de DVD. Je m'étais étonné de voir à quel point ces trois valeurs-là, qui sont les valeurs de la vie, sont symbolisées au cinéma. Au fond, le cinéma, c'est un peu aujourd'hui la mythologie vécue. D'abord, notre Seigneur lui-même a vécu ces trois dimensions-là. Il a mangé, il a fait des miracles sur la nourriture, il a aimé. Évidemment, il n'a pas aimé sexuellement, mais il a aimé affectivement. Et il a été aimé, et il n'a pas rejeté ça. Et puis, il est mort. Mais la mort de Jésus, c'est pas simplement il est mort comme ça. Il est mort vraiment parce qu'il a poursuivi jusqu'au bout une certaine relation d'amour avec son Père, qui fait qu'il lui est resté fidèle jusque dans les contradictions qu'il a reçues, et la dernière, c'est la mort. Et donc il y a quelque chose d'harmonieux en ce que Jésus, avant de mourir, crée une liturgie où il y aura de la nourriture qui va être un lieu d'échange, et donc un lieu d'amour. Je ne sais pas si je lis dans ce livre-là, mais je me suis demandé souvent, quand vous invitez quelqu'un à déjeuner, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire, je t'aime tellement que pour ce repas au moins, je vais te donner la vie. Et quand j'accepte une tasse de café de votre part ce matin, j'accepte de vous un breuvage qui est de vie. Et je l'accepte de vous. Et donc, ce n'est pas de moi. Et donc, la nourriture échangée, c'est tout à fait important. Alors, la sexualité, c'est pareil. Nous, religieux, on n'a pas une expérience directe. Nous avons comme une expérience indirecte parce que nous avons un corps comme les autres et une chair qui réclame et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Si nous étions des anges, ça ne serait rien. Mais les gens mariés, eux, ils exercent la sexualité, ce qui ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Mais c'est pour dire que le sexe comme échange qui implique le corps, la sensibilité, l'affectivité, c'est aussi un des registres de l'amour. C'est peut-être le registre le plus important. Alors moi, je crois que l'Eucharistie, c'est un peu ça. C'est le lieu où le Christ a aimé en mourant, aimé, donc il s'est donné. Et donc il y a tout ce que la sexualité illustre. En mourant, il a donné sa vie et il le manifeste par un repas que nous prenons ensemble. Alors à partir de là, on pourrait imaginer, c'est sûr, une réforme liturgique ou une manière de célébrer la liturgie. Je ne dis pas qu'elle soit différente d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de manières de célébrer aujourd'hui, grâce à Dieu. Alors, ce qui serait très important, c'est que les manières de célébrer, bon, tout en restant fidèle à tous les modes proposés par l'Église qui sont les bons, mais la manière concrète, ça, on ne peut pas la rajouter, il faut qu'il y en ait une, et elle ne peut venir que de la communauté, que la communauté sente un peu comment nous allons aujourd'hui célébrer l'échange.
Père Guylain Lafond, au cours de votre longue vie, avez-vous des rencontres ou des personnes qui ont été pour vous des ouvertures qui ont aidé votre pensée ou votre vie monastique ?
Bien sûr. Comme tout homme, j'ai reçu d'abord de beaucoup de mes parents. Et au fur et à mesure que je pense à eux, ils sont morts il n'y a pas tellement longtemps, ils sont morts très âgés. C'est magnifique parce qu'avec le temps, tous les défauts qu'ils avaient, toutes les erreurs qu'ils ont faites, et j'en connais quelques-unes, on oublie. Mais ce qu'on garde, c'est s'ils ont transmis le meilleur d'eux-mêmes. Donc il y a mes parents, et puis j'ai eu au début de ma vie religieuse des abbés, donc des abbés du monastère qui étaient des hommes à la fois de prière et d'humanité, qui m'ont transmis, qui ont voulu me transmettre, qui m'ont en tout cas transmis, même si je ne l'ai pas reçu, le goût de la prière et le goût de l'humain. Et puis j'ai eu aussi parmi les professeurs moines que j'avais à ce moment-là, qui étaient des gens un peu improvisés, parce qu'on a comme en 45, il n'y avait pas beaucoup de choses. J'ai eu un frère qui était un peu génial, qui avait un peu le génie de la recherche philosophique, théologique. Il a tout fait par lui-même, tout inventé, donc c'était à la fois parfaitement désordonné et génial. Et j'ai fait un livre, il y a quelques années, qui s'appelle « Histoire théologique de la théologie », qui a été traduit en plusieurs langues, donc je pense qu'il doit avoir une certaine valeur. Mais je n'ai fait que répéter en transformant toutes les choses qu'il m'avait dites quand j'avais 18 ans. Donc je suis très reconnaissant à ceux qui m'ont engendré à la vie monastique, à la vie intellectuelle.
Ceux qui vous ont engendré à la vie monastique et vous avez dit ceux qui vous ont donné le goût de la prière et de l'humain.
Et ça c'est sans prix. On ne sait peut-être pas tout de suite toutes les richesses de l'intériorité qui est en nous, de Dieu qui habite en nous, de Dieu qui nous aime. Et donc il faut apprendre la prière, il faut apprendre l'intériorité. Et quand vous êtes jeune et que un maître des novices ou un abbé vous répète tout le temps la vie intérieure, demeurer dans le Christ, etc. Comme on est de bonne volonté, ça finit par entrer. Et c'est ce mot peut-être d'intériorité qui m'a été appris, m'a été répété, seriné, si je peux dire. Bon, alors j'en ai fait ce que j'ai pu et j'en ai pas fait ce que j'aurais dû, mais c'est quelque chose qui est ineffaçable. C'est ça le goût de la prière, c'est l'intériorité, c'est la rencontre de Dieu, l'amour du Christ. Alors, avec beaucoup de choses, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, par exemple au niveau de la Lectio Divina, mais justement, si vous lisez l'Écriture sans être formé à l'intériorité, vous risquez de rester au superficiel.
Vous dites être formé à l'intériorité. Comment aujourd'hui l'homme contemporain peut-il espérer être formé à l'intériorité? Et comment surtout y rester dans cette intériorité?
Je pense que tous les hommes sont un peu avides de cette dimension intérieure. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens vont chercher dans les religions orientales ce que peut-être on ne leur a pas appris dans la religion chrétienne. Et donc, quand on est en face de quelqu'un, on peut toujours le regarder comme quelqu'un qui a soif de rentrer en lui-même profondément et sans le violenter, de dire qu'est-ce que je peux lui dire ou comment est-ce que je peux faire pour qu'il entre lui-même sur ce chemin-là. Mais ce ne sera jamais des grands trucs de masse, parce que l'intériorité, c'est un peu de personne à personne, je crois.
Et la question qu'on entend souvent, c'est comment justement rester dans cette intériorité? Comment la cultiver, cette intériorité?
Moi, la seule chose que je dis aux gens qui me le demandent, c'est qu'il faut donner du temps à la prière, c'est-à-dire des trucs absolument évidents. Par exemple, je prends sans difficulté 10 minutes pour prendre mon petit déjeuner le matin, et je le ferai quoi qu'il arrive. Une fois ou l'autre, je passerai parce que je ne peux pas, mais normalement. Donc si je prends 10 minutes le matin pour mon petit déjeuner, je ne vois pas pourquoi je ne prendrai pas 10 minutes pour ouvrir un peu l'évangile et me recueillir. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre, et il y en a qui l'entendent et qui sont fidèles. Mais je pense pas que l'intériorité, c'est comme de tout. Nous sommes des hommes dans le temps, dans l'espace, dans le corps. Il faut donc jouer avec le temps. Je ne me souviens plus qui disait, j'ai lu d'un Bloom, Antoine Bloom, qui était un médecin, puis ensuite un archéologue, il disait... Si vous prenez 10 minutes par jour pour vous recueillir et rentrer en vous-même, vous serez sauvé, quelque chose comme ça. Mais l'expérience montre que ce n'est pas facile de prendre 10 minutes par jour.
Qu'est-ce qui vous habite plus particulièrement pendant ces années plus de recul? Vous êtes moins exposé que vous n'avez été exposé quand vous étiez professeur. Qu'est-ce qu'un moine professeur de théologie, théologien, comment vit-il aujourd'hui?
Je pense qu'il vit essentiellement d'amour de Jésus. L'amour que Jésus a pour lui, la confiance qu'il a pour lui, la vie filiale qu'il lui donne par rapport au Père, enfin toute cette vie intérieure, oui, mais qui a pris au fur et à mesure de ma vie. Bon, d'abord, l'expérience qu'on ne peut pas aimer et être aimé sans souffrir pas mal, parce que l'amour entraîne la souffrance, hein, qu'on le veuille ou non. Alors ce qui est beau aussi, c'est justement cet amour dont on se sait... entouré par le Christ, même s'il reste très mystérieux, eh bien, il est partagé avec tous les hommes. Le Christ aime chaque homme comme moi-même. Et donc, il y a une certaine manière, peut-être, de regarder les hommes avec une bienveillance qui va plus... qui n'est pas simplement une bienveillance naturelle, qui est une espèce d'entrée dans l'amour que Dieu veut répandre un peu partout. Bon, je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais je dis que, certainement, un long parcours théologique... relié à une vie de communauté qui est belle chez nous, c'est vraiment une belle vie de communauté. Bon, ça ouvre le cœur un peu à tous, quoi, je sais pas. Je voudrais pas dire de grands mots, hein. Je vis comme je peux au ras du sol, hein. Mais voilà, je rends grâce d'une vie finalement très bénie par tout ce qui s'est passé.